Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF Limoges 95.4. Aujourd'hui je reçois donc Alain Grand qui a illustré et fait ce merveilleux livre, donc Les Enfants de la Liberté aux éditions Casterman. C'est un livre que je recommande déjà à nos auditeurs, c'est touchant. En plus, c'est la réalité d'une certaine époque douloureuse sous l'occupation, on peut le dire. Bonjour Alain Grand.
Oui, bonjour. Bonjour aux auditeurs.
Donc, vous avez illustré ce livre de Marc Lévy.
Voilà.
Et vous avez participé, je crois, au scénario, non?
Oui, c'est-à-dire j'ai adapté carrément le roman. Voilà. Donc, je suis parti du roman de Marc Lévy et bon, j'ai fait une adaptation storyboardée, si vous voulez. C'est-à-dire le storyboard, c'est que on construit plus ou moins la bande dessinée en images très simplifiées pour arriver à visualiser correctement l'adaptation et la lecture. Voilà. Bien sûr, tout ça s'est fait sous le contrôle amical de Marc Lévy, voilà. Donc, à qui j'ai soumis la plupart des étapes de l'adaptation. Et bon, j'ai vraiment voulu être respectueux de son roman. Donc voilà, ça a été une collaboration de cet ordre, disons. Voilà.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Je peux vous le dire. J'ai beaucoup aimé. Je le relis même. Je vous dis franchement, je le relis. Et c'est ce que vous avez fait est assez remarquable parce qu'un livre, le livre de Marc Lévy que j'ai lu, était quand même plein de détails, ce genre de choses. Et vous avez su les retranscrire sans faire, vous savez, au niveau de l'image, je vais peut-être mal m'exprimer, mais sans tomber dans les longueurs. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui.
Au niveau de l'image. Pour moi, c'est un tour de force parce que ça ne doit pas être évident d'adapter un livre en bande dessinée, non?
Oui, bah écoutez, moi, c'est la première fois, mais bon, je ne vais pas dire que j'ai été à l'aise, ça serait de... Mais c'est vrai que, bon, quand on fait un scénario de bande dessinée soi-même ou qu'on travaille à partir d'une histoire, disons, moi, vraiment, je dessine ce que je ressens, si vous voulez, mais après, quand j'ai un chapitre adapté, par exemple, bon, il faut que j'arrive à sentir ce qui est important de montrer, si vous voulez, ce qui fait que quelquefois, je rajoute un petit détail parce que, qui peut paraître en ODM, mais qui est important. Voilà. Par exemple, il y a une scène où, avec son frère, il discute dans le roman, il dit qu'il est très triste, le frère, et j'ai essayé de rendre la complicité entre les deux frères par des petites plaisanteries qui sont pas forcément dans le roman, mais vraiment qui doit traduire cette angoisse, quoi, qu'ils avaient de ne plus voir leur famille et d'être dans ce cadre, quoi, hein, forcément, qui était tragique. Hein. Voilà. Donc,
Oui, pardon. Allez-y, non, je vous en prie, finissez.
Voilà, donc, bon, essentiellement, c'est ça. Après, il y a tout le découpage. C'est vrai que c'est un roman qui doit faire une bonne quarantaine de chapitres, qui est bourré de détails historiques. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut sacrifier. C'est vrai qu'au départ, la première adaptation, j'étais parti sur 180 pages et bon, il y a des contraintes éditoriales et on m'a dit bon, il fallait rester sur 156 pages. Donc j'avais quelques petits épisodes que j'avais préparés, que j'ai dû faire des sacrifices. Bon, c'est toujours douloureux, quoi. C'est toujours douloureux, mais bon, ça rajoute à la densité quelque part. C'est positif aussi. Bon.
Alors, donc, vous avez dû couper certaines des scènes que vous aviez dessinées, que vous avez mis en images. Et ça a été douloureux. Est-ce qu'il y en a une que vous regrettez, justement, de ne pas avoir mis dans le livre, en fait?
Oui, un petit peu. C'est, par exemple, là, il se retrouve dans la synagogue à un moment donné, dans une synagogue à Bordeaux. Bon, enfin, ceux qui liront le livre comprendront. Bon. On les a transférés dans une synagogue et il s'est passé 28 jours dans cette synagogue. Donc, moi, j'ai réduit ça à 2 pages. donc, c'est réduire les 28 jours dans le roman, ça doit faire un bon chapitre. Bon, j'ai fait un montage des choses essentielles qui s'y sont passées, disons. Hein. Mais à un moment donné, il parle de son père qui n'était pas pratiquant, mais qui avait envie quand même de faire de transmettre une espèce de tradition familiale, voilà. Et voilà, il faut lire le roman pour lire cet épisode que j'ai dû supprimer, mais qui était assez intéressant parce que ça mettait en scène la famille, voilà, de Jeannot, voilà. Mais bon, ça aurait été vraiment trop long. Il aurait fallu rajouter au moins 5-6 pages minimum, mais c'est un épisode assez drôle qui plus est. Donc ça je convie ceux qui liront la bande dessinée de se rabattre sur le roman, voilà, s'ils l'ont déjà lu. Voilà.
Justement, donc c'est une BD, il n'y aura pas de suite, hein, nous sommes d'accord.
Non.
Mais est-ce que ça, pendant le travail, et ça vous a effleuré de dire non, je peux pas le faire en une bande dessinée, je peux le faire sur une série de 3 ou 4.
Ça a été évoqué lorsqu'on s'est réunis avec la responsable d'édition de chez Casterman. M'a donné le choix, elle m'a dit si vous voulez, je pense qu'il y a matière à le faire en 2 parties. Voilà. Mais bon, j'ai vraiment préféré le faire en une seule partie. Voilà. Je trouve que c'était dommage de créer une rupture, d'autant que bon, c'est une bande dessinée comme le roman qui se divise en 3 parties grosso modo, c'est-à-dire ce sont les origines, l'entrée de Jeannot et de son frère dans la brigade. Oui. Jeannot et Claude, ce sont les respectivement le père et l'oncle de Marc Lévy, hein, voilà,
oui,
qui sont rentrés dans cette brigade à l'âge de 18 et 16 ans. Et donc il y avait donc une partie brigade, une partie prison Saint-Michel sur Toulouse, où ils avaient été emprisonnés. Et après, il y avait une troisième partie qui était la déportation. Voilà. Une déportation dans ce qu'on appelait le train fantôme. Donc si on avait dû scinder en 2, on allait tomber sur une partie... c'était difficile de scinder en 2 quelque chose qui a 3 parties.
Déjà.
Ils sont à peu près équilibrés. Et puis bon, si on avait vraiment eu une partie prison-train, je trouve que c'était... voilà, ça déséquilibrait le côté il y aurait eu un album plus tragique que l'autre. Enfin bon, je trouve que c'était bien de réunir tout, c'est-à-dire les joies, les peines dans le même album, quoi. Voilà,
Et la décision, c'est vous qui l'avez prise ou c'est une décision collégiale avec Marc Lévy et les éditions Casterman?
Oui, ça a été collégial, mais bon, je dois dire que Marc Lévy, qui est m'a toujours soutenu, quoi, disons, dans mes choix. Il a été très très respectueux. Autant j'ai essayé d'être très respectueux de
son travail,
de ce qu'il a voulu, voilà, de ce qu'il a voulu faire passer dans le roman, qui est pas qu'un roman historique, quoi. Hein, bon, moi quand je l'ai dit, bon, je vais le faire. Comment dirais-je, je lui ai dit, pour moi, c'est pas forcément une BD historique. C'est plus une BD sur l'adolescence, à la limite, que sur qu'une BD historique. Voilà. Bien que ce soit dans un contexte historique. Mais je lui ai dit, moi, il me paraît, je sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est aussi important de montrer que c'était des combattants, mais que c'était aussi des adolescents. Quoi. Et mettre un peu l'accent là-dessus. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, j'avais bien senti l'esprit de son
livre,
son roman, quoi, oui, son album sur l'amour fraternel, quoi, aussi, quoi.
Oui, et c'est vraiment très 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 bien vu. Bon, le roman est tel quel, mais il y a beaucoup plus de densité, c'est beaucoup plus volumineux, on va dire, en termes de... que là, vous avez accentué, effectivement, sur l'aspect caractère, l'aspect fraternel, et l'aspect un peu adolescence, adulte, jeune adulte volé par cette guerre.
Oui, oui.
Et je trouve que c'est très très bien vu. Et je pense que pour les... Moi, c'est l'effet inverse, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour les gens qui vont lire la bande dessinée, et ils vont naturellement, je pense, vouloir lire le livre.
Oui, oui, oui.
Je ne sais pas déjà si vous avez des retours dans ce sens-là.
Oui, ben je connais des personnes qui ont lu le livre surtout et qui ont lu la BD. Bon, ceci dit, ce sont des proches. Bon, on peut se fier à leur critique, mais enfin, je relativise toujours un petit peu. Bon, c'est pour ça que le compliment que vous m'avez fait à l'ouverture de l'émission. émission m'a touché parce que vous êtes un des premiers à, voilà, à formuler une critique indépendante, on va dire. Voilà. Donc oui, je pense que ça peut vraiment donner envie de lire le roman, et pas que le roman qui plus est, quoi, parce qu'il y a, des ouvrages, par exemple, il y a un ouvrage de Jean-Yves Oursier qui a été fait sur la 35e brigade, qui est vraiment passionnant, que j'ai lu en annexe, bon, parce que j'ai adapté le roman avant tout, moi je suis pas... J'aime l'histoire, bon, mais je ne suis pas historien, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de me nourrir en parallèle du roman, pour ne pas rester que sur le roman, pour avoir quelques petits éclairages. Donc j'ai rajouté des petits détails d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, par exemple, j'ai des petits détails que j'ai pêchés sur un documentaire ou sur un bouquin, et qui ne sont pas forcément non plus dans le roman de Marc Lévy. Par exemple, bon, j'ai cité des postiers qui cherchaient les messages le long des voies. Ça existait, ça.
Oui.
Des groupes de postiers qui se sont organisés pour chercher des messages et pour les distribuer clandestinement aux familles. Voilà. Et ça, c'est bon. Il y a des anonymes qui trouvaient des billets, ils les faisaient parvenir. Mais il y a carrément des gens qui sont organisés pour ça. Quoi. Comme il y a eu des gens qui sont organisés au niveau de la SNCF. Voilà. Il y a certains métiers qui se sont investis, quoi, dans leur maigre possibilité, quoi. Voilà. Mais c'est important. Bon, alors je l'ai glissé, j'ai mis deux lignes, mais bon, je trouve que ça pouvait être intéressant à dire. Alors je l'ai mis, voilà, des petits détails comme ça. Voilà.
J'ai une question. Quand vous avez attaqué donc ce projet, étant donné qu'on parle de votre pays, entre guillemets, ça a dû vraiment vous toucher d'écrire sur un sujet qui vous est proche, en fait.
Ah oui, oui, tout à fait. D'autant que j'avoue que j'étais totalement ignorant de l'existence de cette 35e brigade. Hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de Français qui connaissent cette existence avant le roman de Marc Lévy, bien que Claude Lévy, l'oncle de Marc Lévy, avait écrit une histoire de la 35e brigade dans les années 70, je crois que c'était en 70, 72, voilà, ça s'appelait les parias de la résistance, bon, et c'est, vraiment on a découvert ces combattants à cette occasion-là, quoi, hein, parce que ce sont des gens, alors ce qui est, ça peut paraître très paradoxal, hein, mais ce sont des gens qui ont accompli des choses très fortes, extraordinaires, mais qui ont gardé le silence pour la plupart, quoi.
Et, c'est vrai.
Et ils ont été, je crois qu'ils ont été médaillés dans les années 80, quoi, ces gens-là.
Très tardivement.
Très tardivement, oui, oui. Et même, je vous dire, bon, ça allait, le secret qu'ils gardaient, qu'ils ont fouissé en eux, bon, parce que c'était.
Pas évident.
Bon, c'était quand même difficile, quoi, hein, de vivre avec ce qu'ils avaient vécu, quoi. Hein, bien que. Bon, il y avait sûrement des côtés positifs. Alors, c'est vrai que la BD les met un petit peu en avant, quoi.
C'est vrai.
La fraternité, voilà, je vais pas dire l'aventure parce que c'est un peu extrême, mais bon, la fraternité, les actions collectives, voilà. Tout ça, bon, c'est quelque chose qui peut être tout à fait enthousiasmant a posteriori, mais pas vraiment pour eux, parce que c'était vraiment ce qu'ils ont vécu, ça a été quelque chose de très très dur et très difficile. Enfin, s'ils avaient eu le choix, ils se seraient passés d'être en guerre. Ce qui fait que ce sont des gens qui sont souvent peu confiés, même à leur famille, vous voyez. Mmh. Et Marc Lévy n'a appris ça qu'au moment de la remise de médaille à son père. Son père ne lui avait jamais parlé qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait, quoi. Ça paraît incroyable, mais c'est...
Oui, ça paraît incroyable, mais vrai.
Mais c'est vrai. Oui, il a voulu le préserver, il n'a pas voulu cultiver cette mémoire, voilà, quoi. Hein. Bien qu'il a sûrement éduqué dans des valeurs qui étaient en harmonie avec celles pour lesquelles il s'était battu, hein, mais voilà, mais il n'a jamais mis son action vraiment en avant. Hein. Et Marc Lévy a vraiment voulu faire la surprise à son père, et il a écrit en cachette son roman, quand même. Hein.
Ah oui.
Voilà. Et il lui a dévoilé que lorsqu'il a été écrit, il lui a transmis le manuscrit, et il a dit voilà. Voilà, et son père a été très très touché de ça, quoi. C'est un hommage que son fils lui a rendu, quelque part.
Mais on en parlera un peu de ça dans la deuxième partie d'émission. Oui. Et justement, je voulais en parler, mais vous voyez, vous m'avez pris de court. Justement, c'est ce roman qui a été écrit en cachette du père. Mm-hmm. Oui, et justement, je voudrais qu'on en revienne. On va faire donc une première page musicale. Je rappelle donc à nos auditeurs que vous avez choisi cette programmation musicale qui m'a beaucoup étonné parce que je connaissais peu d'interprètes.
Ah oui,
je vous dis franchement.
Bon, oui, mais j'ai des goûts assez...
assez éclectiques, on va dire.
Oui, assez large. Bon, j'aurais même... quand on m'a proposé ça, j'avais même envie de mettre des BO. Il y a des tas d'autres.
Ah, mais vous inquiétez pas. Voilà. J'ai même eu un monsieur qui m'avait... Louis Vell, en l'occurrence, qui m'avait fait mettre des bandes originales de séries télé.
Ah oui, oui.
Et je vous garantis que c'est pas évident à trouver.
Eh oui, oui. J'espère que vous n'avez pas trop ramé.
Un petit peu, mais je me suis débrouillé.
Sinon, je vous aurais soumis d'autres titres. Parce qu'au départ, j'avais fait une présélection d'une quarantaine de titres, vous voyez.
Ah, mais...
Et qui m'enthousiasme. Alors... Donc, le choix était draconien, là aussi.
Vous les garderez de côté pour la prochaine émission, pour votre prochain ouvrage.
Voilà, mais d'accord.
Alors, vous avez choisi Loïc Lantoine pour Tout est calme.
Oui, Loïc Lantoine, oui, oui.
Kate Bush pour The Glory of Gershwin.
Oui, ça, ce sont les titres des albums, voilà.
Et Jeff Buckley avec So Real.
Voilà, Jeff Buckley qui chante donc Alléluia.
Tout à fait.
Voilà, Loïc Lantoine chante Pierrot. Et Kate Bush, là, qui chante dans un disque qui a été pour les 80 ans... d'un grand harmoniciste dont le nom m'échappe tout à coup, là, soudain. Mais voilà, ils avaient fait un album alors, où on retrouve Sting, où on retrouve...
Et donc la chanson de Kate Bush, c'est
The Man I Love. Voilà.
The Man I Love.
Voilà, tout à fait. De Gershwin.
Donc, pourquoi ces choix?
Pourquoi ces choix? Bon, d'abord parce que parce que j'aime. Tout ce que j'ai mis, c'est des choses que j'aime.
Ah, ben, juste pas pour vous.
Après, lorsqu'on aime donner les raisons pour lesquelles on aime, c'est pas toujours.
Évident.
C'est pas toujours évident, on aime. Moi, j'ai vraiment des. Il va y avoir des chansons très bêtes qui vont me toucher. Alors, je ne comprends pas, des fois, je me dis, mais pourquoi? Je me pose des questions, mais bon. Alors, est-ce que ça correspond à des instants de vie ou je ne sais pas, mais bon, quelque part, ça touche. Bon, Loïc Lantoine, je trouve que c'est j'aime beaucoup. Bon, c'est un chanteur qu'on n'entend pas assez souvent, je trouve. Mais je pense qu'il est en ascension régulière. Hein, voilà, Kate Bush, bon, on ne la présente pas. Et Jeff Buckley, parce que je trouve que c'est vraiment... Il y a énormément d'émotions. Quoi,
Alléluia est magnifique, voilà. Je suis d'accord avec
vous. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. Et la plupart de ceux que j'ai choisis, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce qu'ils chantent. Voilà.
Eh bien, on écoute ça tout de suite. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième page de cette émission.
Merci.
1, 2, 3, 4...
Noir dans ma caboche, les soirs où tout est un peu moche, où même un sourire devient louche, où je brise tout ce que je touche. Avis devant ma vie, les paupières en parapluie. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Qu'on s'engage, que je tremble autant que j'orage. Quand je recompte mes défauts et les jours où je siffle faux. Quand je me sens suant, sale et seul, avec la gueule de traviole. Y'a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haut de ma dos et qui me dit dans un sourire. Thank you. quand j'hurle dans un mauvais roman que je me mens chaque moment. Quand je me sens fiston sans papa, quand ça va pas frère, ça va pas. Y a toujours mon copain Pierrot qui pose une main en haute main d'eau et qui me dit dans un sourire.
Care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, there was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, 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 hallelujah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alain Grand pour son adaptation, on va dire, des Enfants de la Liberté, du roman de Marc Lévy. Et donc, ce bel ouvrage est édité chez Casterman. Donc, nous étions arrêtés, nous avions parlé déjà de cette BD dans la première partie. Il y a une chose que les auditeurs veulent sûrement savoir. Qui êtes-vous ?
Oui. Je suis moi, je viens de chez moi, j'y retourne, comme disait Pérodac. Bon, moi, je suis Alain Grand, je fais de la bande dessinée depuis des années, mais c'est vrai que je ne suis pas passé professionnel qu'en 2006. Voilà.
Vous êtes un jeune BDiste, alors ?
Voilà, oui, un jeune BDiste, mais j'ai fait... J'ai fait des études de médecine, et puis j'ai exercé pendant 25 ans en tant que chirurgien dentiste, voilà. Et j'ai abandonné la profession pour me consacrer qu'à la bande dessinée, voilà.
Vu votre coup de crayon, c'est normal.
Voilà, voilà.
Enfin, peut-être que vous aviez un bon coup de roulette.
Oui, ben, oui, je suppose, puisque quelques patients m'ont dit qu'ils m'ont regretté, mais bon, donc je pense que j'ai pas laissé de trop mauvais souvenirs, Dieu merci. Mais c'est vrai que j'ai fait la bande dessinée, assez jeune. Hein. Bon, donc, mais j'étais surtout passionné par le dessin animé lorsque j'étais ado. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas trop d'école pour apprendre la l'animation. Voilà, c'était pas évident, quoi. Alors, comme j'étais matheux, scientifique, voilà, j'ai suivi une filière médicale finalement. Et voilà. Donc, j'ai gagné ma vie comme ça, tout en travaillant. C'est-à-dire que j'ai continué quand même à dessiner en parallèle de ma vie professionnelle. Voilà.
En passion. C'est,
voilà. Oui, oui, c'était vraiment une passion parce que quand j'ai passé mon concours de médecine, j'ai passé aussi un concours de BD, figurez-vous. Il y avait un salon de la bande dessinée, un des tout premiers salons de la bande dessinée qu'il y a eu en France et était sur Toulouse. Voilà. Et ça se passait à la Locrin, il y avait un concours de BD, et puis bon, moi j'avais fait dessin animé, donc je me disais bande dessinée, dessin animé, et puis je me suis mis, j'ai fait trois planches qui ont été retenues, voilà, et j'ai eu un troisième prix, voilà, c'était la Caisse d'Épargne qui sponsorisait ça à l'époque, donc ils faisaient ouvrir, ils ouvraient un petit compte, voilà, j'ai eu 100 francs à l'époque, voilà, et le troisième prix, et surtout, bon, ce qui était émouvant, c'est que ça, le prix m'a été remis par Jigé, quoi, quand même, qui est un grand de la
bande dessinée, tout à fait.
Donc, pour moi, c'est un très bon souvenir. Voilà.
Et ceux qui vous ont précédé ont fait carrière dans la BD?
Je ne crois pas. Voilà, ben, comme quoi, c'est pas toujours les prix non plus, mais je crois que ce qui est important, c'est la constance et l'envie, quoi. Hein, je sais pas si j'étais spécialement doué, mais bon, le don que j'avais, c'était d'aimer ça, quoi. Ça, c'est sûr. Hein. D'aimer dessiner, d'aimer l'animation. J'aimais vraiment le dessin d'animation. C'était vraiment quelque chose qui me passionnait. J'en avais fait, même j'avais construit une caméra multiplane, comme on voyait
chez Disney.
Enfin, oui, carrément.
Il y avait un bricoleur en plus.
J'avais une petite caméra Super 8, je m'étais fait un petit travelling, enfin voilà, je faisais. Mais bon, j'ai pu faire ça jusqu'à ce que je quitte le giron familial, on va dire, pour partir en faculté, quoi. Parce qu'après, en faculté, c'était un peu difficile, voilà. Donc, je me suis rabattu un petit peu, bien que j'adorais la bande dessinée, mais ce n'était pas ce qui m'intéressait au départ. Voilà. Donc, et puis, j'ai pris goût et je me suis mis à la bande dessinée. J'ai dessiné dans des journaux étudiants. Et puis, j'ai été remarqué par l'édition Milan à l'occasion d'une expo, parce que j'avais fait, d'une petite BD que j'avais publiée dans un fanzine toulousain. Voilà. Et ils m'ont contacté, l'édition Milan qui était naissante à l'époque, et puis j'ai travaillé avec eux, j'ai collaboré, voilà. Et j'ai dessiné pour des magazines de Milan pendant des années, et voilà. J'ai réussi quand même, en étant chirurgien dentiste, à publier deux albums, voilà. Et depuis que je suis professionnel, j'en ai publié trois.
C'est bien, vous êtes lancé définitivement. Cette fois-ci.
Oui. Écoutez, à certains âges, on va dire, il faut faire certains choix.
je comprends ce que vous voulez dire.
Voilà.
Au niveau de l'animation, est-ce que un jour, c'est l'aparté que je voulais faire, est-ce qu'un jour vous aimeriez faire un dessin animé, justement, parce que vous avez l'air, dans vos propos, vous avez l'air d'avoir toujours cette petite passion sur l'animation.
Oui. Ben, je sais pas, oui, mais vous savez, l'animation, c'est quelque chose de très très complexe, hein,
oui.
Qui demande vraiment un investissement. Faire un dessin animé pour faire un dessin animé, non, honnêtement, à titre personnel, moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'être animateur, voilà. Mmh. C'est pas de créer un dessin animé, ça m'aurait intéressé, mais c'était plus l'animation qui m'intéressait, c'est-à-dire, je vais aller loin, je veux dire, presque jusqu'à l'analyse physiologique du mouvement, quoi. J'étais assez fasciné qu'on arrive avec des dessins à rendre une dynamique, mais il y a des tas de choses à savoir sur voilà, au niveau des gestes, il y a des temps d'arrêt, il y a des... Ça paraît tout à fait naturel, les gens qui vont voir ça au cinéma, ça paraît tout à fait naturel, mais voilà, c'est une... derrière, c'est une connaissance énorme, énorme. Et puis, c'est pas qu'une connaissance, si vous voulez, il faut intégrer, il faut vraiment comprendre ça en profondeur, voilà. Et c'est tout ce qui fait la différence entre des... Vous avez des animateurs qui vont vous faire des gestes et des gestuels ou des mimiques qui vont aller au-delà du réel, quoi. Et le réel, ce serait de décalquer carrément de calquer des personnages réels, ce qui a été fait, hein, mais il y avait un procédé qui s'appelait le rotoscope, hein, voilà, qui avait été mis au point dans les années 30 par les frères Fleischer, et qui consistait à décalquer carrément, à filmer les personnages réels, à les décalquer, voilà. Mais en dessin animé, ça sonne très faux, voilà. Et c'était bien meilleur chez Disney, ça l'inspirait, mais il ne décalquait pas forcément. Ce qui fait qu'on avait quelque chose de beaucoup plus puissant, parce que ça passait vraiment par le filtre du ressenti du créateur. Parce qu'on peut vraiment dire que ce sont des créateurs, quoi, la plupart de ces animateurs de chez Disney, quoi. Voilà, même s'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient.
Là, c'est le fan de le matheux qui a parlé là quand même.
oui, peut-être, oui, mais matheux, bon, il y a l'émotion toujours, quoi. Hein. Moi, je pense que moi j'ai à moi cette dualité un petit peu aussi, que je trouve l'émotion, c'est très important, mais je suis aussi très cartésienne, donc j'ai un peu un grand écart à titre personnel, voilà. C'est ce qui m'a empêché d'aller vers les mathématiques aussi, parce que j'ai eu un peu peur, j'étais vraiment matheux, quoi, hein, je devais faire mathématiques supérieures et tout, j'étais admis, mais bon, je me suis dit que j'allais m'écarter un peu de la vie et du réel, moi c'est l'idée que je me faisais des mathématiques, quoi. Et bon, c'est peut-être pas le cas, mais j'avais vraiment peur de m'enfermer dans de l'abstraction et de quitter le terrain des vivants, voilà. Voilà. Ceci dit, bon, il y a beaucoup de mathématiciens qui sont... C'est une vision que j'avais à 17 ans, quoi, donc...
C'est peut-être aussi une vision de l'époque.
Ou de l'époque aussi, oui. Puis c'était des écoles qui étaient vraiment réputées pour être compétitives, pour être, voilà...
Élitistes, hein.
Voilà, ouais, bon, je suis un peu parti de médecine à cause de ça, voilà. Voilà, c'est une fuite, il faut l'avouer, bon, à ma grande honte, voilà, j'ai fui.
Vous regrettez d'être revenu, on va dire, entre guillemets, à votre passion, donc la BD, si tard?
Non, parce que je pense que, sincèrement, bon... ma première BD, j'aurais eu la tentation de tout plaquer et de partir sur la bande dessinée, quoi. Mais je me sentais pas les épaules assez larges, quoi, pour ça, franchement. Pourtant, j'ai eu un premier prix, je dis des bêtises. j'ai été, nominé, voilà, comme on dit maintenant. J'avais été nominé pour le prix du public à Angoulême, là, avec cet album. Et... voilà, que je n'ai pas eu d'ailleurs, c'est Régis Loisel qui l'avait eu pour qui avait été sélectionné aussi dans cette catégorie et qui l'avait eu pour Peter Pan, voilà, c'était le tout premier de sa série Peter Pan, voilà. Et bon, à l'époque, c'est vrai que j'avais été contacté par des éditeurs comme Dargo, mais je me voyais pas lâcher. Bon, je pouvais pas d'abord, hein, bon, parce que c'est ce que c'est quand on s'engage dans des voies professionnelles, il y a des...
C'est pas évident des fois, mais...
Voilà, il y a des choses, bassement matériel, des investissements et autres qui ne, voilà.
Il faut prendre en compte. Il faut les prendre en compte.
Eh ben oui, de toute façon, ce qui fait que le choix n'est pas toujours un choix, mais bon, c'est vrai que j'ai aimé mon métier, sinon je pense que je n'aurais pas tenu, parce que c'est un métier qui est très prenant, donc, mais bon, j'en ai exploré pas mal, de facettes, puisque bon, j'ai fait de la chirurgie, j'ai fait plein des implantologies, des choses comme ça, bon, qui m'ont vraiment passionné, quoi. Puis après, bon, je me dis, bon, vous savez, j'ai fait un petit peu le tour, et puis, voilà, et puis après, la vie, les choses, il y a des choses qui décident, d'autres choses qui décident pour vous, et puis voilà, j'ai décidé de franchir le pas, voilà.
Et depuis 7 ans, vous avez changé de métier complètement et vous vous occupez de vos crayons
et tout ça.
Oui. C'est vous qui faites la colorisation de vos albums ?
Non. Ça m'arrive de faire des colorisations sur des petits travaux ponctuels que j'ai fait par ailleurs. J'ai participé à un collectif sur l'histoire de Toulouse d'ailleurs, qui retrace, qui parle du canal du Midi, du canal de Brienne. Bon, là j'ai fait la couleur et là la couleur a été confiée à Dominique Ozouche, qui est une merveilleuse coloriste, je trouve. Et vraiment, je tenais à ce que ça soit elle, quoi. Voilà. On m'avait proposé d'autres coloristes, mais j'ai dit non, je veux que ça soit elle, parce que vraiment, j'appréciais vraiment son travail, quoi.
Oui.
Et Casterman, voilà, ils se sont dit ok, voilà. Donc elle voulait vraiment aussi, voilà. Mon dessin lui plaisait, elle sentait qu'elle allait pouvoir s'y épanouir, parce que bon, c'est pas évident de...
Ce sont deux métiers différents.
Oui, tout à fait, et puis c'est un petit peu comme, puisqu'on est dans les chansons, les paroles et la musique, quoi, hein. Il faut que ça soit en harmonie, l'un par rapport à l'autre, quoi, voilà. Et on peut avoir d'excellents coloristes, moi il m'en avait proposé d'excellents, mais je trouvais que ça ne collait pas à mon dessin, quoi. Si vous avez un coloriste trop réaliste sur un dessin qui est semi-réaliste, ça va pas, et inversement, quoi, donc... Voilà. Donc je suis très très heureux que ce soit Dominique Ozouche qui m'ait fait, qui est par ailleurs la coloriste de la série Amour Fragile. Voilà.
Et donc vous retravaillerez avec elle.
Oh oui. Oui. À moins que je fasse un album en noir et blanc, bon, ce qui n'est pas exclu. Mais si vraiment il y a la couleur,
vous avez un projet en noir et blanc?
Non, je n'ai pas forcément un projet en noir et blanc, mais bon, c'est vrai que moi j'aurais un projet, j'ai plus trop envie de travailler sur des... Bon, il faut jamais dire jamais, comme on disait, mais j'ai plus trop envie de travailler sur des albums à suivre, parce que ils se suivent pas toujours, donc... Donc je préfère, là vraiment, si je peux faire que des one-shots, je préfère, vraiment j'aimerais beaucoup.
Ah, vous êtes plus un one-shot plutôt que d'autres qui se lancent dans des séries ou même des mini-séries.
Oui, tout à fait. Oui. Moi, je suis vraiment plus... Et ça a toujours été un plus. Alors, j'ai fait un peu des... J'ai touché des albums qui n'ont pas fini en série la plupart du temps. Donc, je trouve dommage. Donc, je préfère vraiment... J'ai vraiment envie de me consacrer à du one-shot, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un gros travail, parce qu'il y a beaucoup plus de... souvent beaucoup plus de planches, quoi. Je trouve que c'est limite, en plus, bon, le contenu sur 46 pages, moi, m'a toujours gêné, quoi, parce qu'on a tout juste le temps de développer, et puis, et puis ça s'arrête, voilà. Donc, voilà, là, vraiment, ça a été pour moi l'idéal, quoi, arriver à travailler entre un an et demi et deux ans sur un album long, comme ça, c'est vraiment, moi, pour moi, c'était parfait, voilà. En plus, on peut vraiment s'immerger dans l'histoire. Voilà. Moi, ça a été vraiment un très, très grand plaisir de faire cet album.
Alors, ça se ressent.
Voilà, vu de l'extérieur, ça peut effrayer, parce que c'est vrai que la vie qu'on mène quand on fait ce genre de travail, bon, vu de l'extérieur, ça peut paraître être un petit bagne, quoi, hein, parce que on peut travailler de jour, de nuit, souvent pas de congé ou pas de repos, ça s'accorde pas parce que on va avoir pris un peu de retard, mais bon, tout ça s'efface devant le plaisir qu'on a à faire ça, quoi, et puis quand on a le résultat dans les mains, quoi, après voilà, c'est la récompense ultime, quoi.
Tout
voilà,
à fait.
Comme le cycliste qui arrive au sommet de la montagne, là. Voilà.
Voilà, mais sans le dopage.
Voilà, sans le dopage, bien sûr. Quoique le café, j'aurais tendance à abuser, mais bon, je pense que, comme c'est légal, je pense qu'on peut parler sur votre antenne.
Hein. Oui, tout à fait, bon, tout bon, à bon. Fait. Alors, on va faire une deuxième page publicitaire, une deuxième page musicale, avec Agnès Sobel, vous avez choisi Riverside, Holden avec une fraction de seconde, et Maxime Le Forestier avec Les Jours Meilleurs. Alors, pourquoi ces choix?
Voilà, bon, parce que, Agnès Sobel, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup ses musiques, bon, l'atmosphère, voilà, j'aime Agnès Sobel, simplement, bon, Holden, j'aime énormément aussi, il y a une espèce de côté de légèreté, voilà, des chansons un peu murmurées. Là, en l'occurrence, c'est une chanson un petit peu presque comme une comptine. Mais je trouve ça dit beaucoup de choses. Bon, je pense qu'il faut écouter les paroles. Il faut pas se laisser emporter par le charme de la comptine. Il faut écouter. Ça a vraiment du sens. Et Maxime Le Forestier, bon, ça c'est mon petit côté vintage, on va dire. Bon, ben, j'ai pas choisi une récente Maxime Forestier que j'aime toujours, mais c'est vrai que Les Jours Meilleurs, voilà, c'est une chanson qui me fait toujours vibrer, voilà. Hein. Et puis je l'avais écouté, j'avais été le voir en concert souvent dans ma folle jeunesse, donc voilà, Maxime Forestier, c'est le petit coin de nostalgie de la playlist, voilà. Voilà.
Eh bien, on se retrouve tout de suite après pour une autre partie de cette émission passionnante avec Alain Grand qui a sorti un très très beau livre, donc inspiré, on va dire, du grand roman de Marc Lévy, Les Enfants de la Liberté, et c'est chez Casterman, et c'est vraiment, je le recommande encore, c'est vraiment un très bel ouvrage. À tout de suite.
Wash of the dirt on the river. Vous êtes comme moi, le premier surpris d'une fraction de seconde. On voit le bout de l'infini. Un jour le bonheur est à vos pieds. Un geste suffirait pour le ramasser. Mais quelque chose d'étrange vous pousse plutôt à shooter dedans. Ça prend des mois, mais on l'aura à l'usure. Les autres savent mieux que moi, mais quand même, j'attends, j'attends, j'attendrai. Futur bien tranquille, bercé au son d'une cafetière électrique, ça prend des mois, mais on l'aura à l'usure, on rappelle les autres saveurs.
Qui disent ils viendront plus. J'entends les fontaines de pleurs.
Quand j'ai mis les cœurs, des si j'avais su, si j'avais pu, et si j'avais eu moins peur. J'entends grossir les ventres et fumer les cigares. Ça fait la différence entre ancien adolescent et futur vieillard. J'entends grossir les flingues et fumer les mémoires. Pendant qu'une bande de dingues au fond de leurs idées peuvent arrêter l'histoire. On voyait partout des sardines alignées dans de l'huile de moteur. Fallait donc qu'on cause à nos jeans des fils de couleur. On était nés sur des ruines The times were changing. Pouvait planter des fleurs, on voulait juste des jours meilleurs, juste des jours meilleurs. J'en ai trouvé qui s'amène, il s'envole, il t'emmène et tu t'en vas, tiré par 36 planeurs. Trouver qui ronde au fond des nuits chaudes, au fond d'un lit du tropical équateur. J'en ai trouvé qui passe en travers de moi, un ouragan qui comme 50 ans d'habitude et puis qui s'en va. L'impression de voir une cible émerger du brouillard, d'avoir pensé impossible et dans un soupir du temps l'apercevoir. Même si je vois encore des sardines alignées dans de l'huile de moteur, il me reste un couplet d'Imagine qui m'emmène ailleurs. Juste les jours meilleurs.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 avec Alain Grand pour cette magnifique BD, livre on peut dire, ou BD roman ou roman BD, fait par rapport au livre de Marc Lévy, Les Enfants de la Liberté, c'est chez Casterman, livre que je recommande parce que... Vous verrez, je pense pas me tromper que c'est un très 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 bel ouvrage. Donc on va parler, Alain Grand, de cette genèse. Comment est venue l'idée d'adapter ce roman, Les Enfants de la Liberté, en BD?
L'idée n'est pas venue tout de suite, bon, parce que c'est un contexte très particulier. Voilà. C'est que... Mon épouse est enseignante, voilà. Enseignante lettres histoire dans était enseignante dans un CFA, voilà. Et au niveau du programme, ils ont des au niveau du français, souvent ils ont l'adaptation de romans en bande dessinée, par exemple, ça peut faire partie du programme. Donc voilà. Étant marié à un dessinateur de bande dessinée, bon. Voilà, elle m'a proposé d'intervenir dans sa classe, ce que j'ai fait de manière tout à fait bénévole. Hein, voilà. Et elle avait choisi ce roman sur les conseils d'une documentaliste qui était vraiment fan de ce roman, qui lui a dit écoute, il faut que tu lises ça. Et elle l'a lu, elle a dit effectivement s'il y avait matière à travailler avec les élèves, voilà, et plus que matière, bon, leur donner en plus le goût de lire, hein, qui est pas toujours évident, bon, chez les adolescents, hein, pas spécialement chez les apprentis, mais chez les adolescents en général, quoi. Donc, elle a lu ce livre, elle a dit oui. Et ce qui fait qu'elle m'a fait intervenir en classe pour expliquer comment on pourrait adapter un roman en bande dessinée. Voilà. Donc moi, je n'avais pas trop d'expérience là-dessus, mais bon, j'avais des lectures de bande dessinée qui avaient été tirées de romans. Il y a pas mal de...
Oui, il y a
pas mal de BD qui sont sortis comme ça, ça devient un nouveau secteur de la bande dessinée, disons les adaptations. Hein. Donc j'avais quand même une idée de la manière de procéder et j'avais choisi, bon alors j'ai dit écoute oui, je vais choisir une scène et puis je l'adapterai, puis je leur expliquerai, je discuterai avec eux, leur expliquer ce que ça veut dire, comment on arrive à séquencer une scène, comment on fait des découpages et tout ça. La responsable du centre de documentation, quoi, est entrée en rapport avec Marc Lévy pour lui soumettre ce projet. Et il a réagi de manière très, très enthousiaste et il a communiqué par mail, il a suivi le projet, voilà, de manière très, vraiment très sympathique, voilà, parce que chaque fois il lui a répondu à ses mails. Et moi, quand j'ai fait la proposition, j'avais prévu d'adapter, bon, moi tout de suite j'avais raisonné visuel, hein, j'avais décidé d'adapter la scène de l'attentat de Jeannot contre un officiel mâle. Voilà.
Oui, voilà. Je vois.
Voilà. Au lendemain de la condamnation de Marcel Langer, voilà, qui était le chef de la brigade qui...
C'est au début de la BD.
Voilà. Parce que ça me paraissait assez spectaculaire. En plus, ça s'est passé dans une pissotière. Bon, c'était assez particulier, bon, comme scène à adapter. Voilà. Et puis pour moi, c'était dynamique. Bon, voilà. Mais bon, Marc Lévy, ça l'a gêné. Alors, on l'a proposé, on a dit qu'on pourrait adapter. Et puis, il a dit que non, il préférerait quand même avec les élèves d'adapter autre chose que ça, quoi. Voilà. Parce que j'ai compris, il avait des réticences, bon, par rapport à la... Moi, j'avais pas trop réfléchi à ça, par rapport à la violence. Il voulait pas non plus que son père, il ait une image du tireur fou, enfin, voilà, quoi. Hein, parce qu'en amont, il y avait rien en amont, quoi. Enfin, ils ont lu le roman après. Ça a été pour leur faire une ouverture vers le roman, disons, hein. Voilà. Donc, j'ai dit, bon, ben, je vais adapter. Alors, j'ai adapté la scène où ils rencontrent la personne qui va les faire rentrer dans la 35e brigade, qui était le responsable politique de la 35e brigade. Voilà. Il y avait trois dirigeants essentiels. Il y avait un dirigeant qui était militaire, disons, il y avait un politique et puis un technique, voilà. Alors les trois, c'était, au début il y avait Marcel Langer, donc, qui a été ensuite pris, après il y avait Jacques, qui s'appelait Jacob Insel, et puis Schimmelgold, qui s'appelait Charles, qui était un intertechnique, qui fabriquait des bombes, voilà. Donc cette rencontre, voilà, je l'ai adaptée sur quatre pages. Donc j'avais fait, à l'époque je travaillais encore au pinceau, donc je l'avais adapté au pinceau. Et voilà, j'ai fait ça avec les élèves et je leur expliquais les techniques, un peu tout, quoi, voilà. Et Marc Lévy a toujours suivi ça et il a dit, moi quand je viendrai sur Toulouse, ça serait bien de rencontrer les élèves.
Ah, c'est super.
Voilà. Et alors, il est venu en dédicace pour un roman et on a décidé de se retrouver, les élèves, au musée de la Résistance de Toulouse. Voilà. Hors contexte, ça a été vraiment incognito. Hein, vraiment. hors contexte journalistique, il n'y avait pas la presse, n'était pas prévenu. Bon, pour que ce soit vraiment quelque chose entre les jeunes et lui, quoi. Voilà. Et donc, on s'est donné rendez-vous à ce musée de la Résistance, voilà, pour que les élèves discutent de ça. Et en parallèle, ils ont, ces élèves ont monté un projet. Bon, il y avait quelque chose qui avait été monté par le conseil général, c'était les festives, on appelait ça. C'est, il fallait présenter un projet et on était sélectionné ou pas. Et il y avait toute une journée où chacun présentait son projet au parc des expositions sur Toulouse, voilà. Et ces jeunes, ils ont été carrément, ils ont fait quelque chose carrément, une étude sur la 35e brigade. En plus du roman de Marc, d'avoir lu le roman de Marc Lévy, ils ont fait cette étude et cette exposition sur la 35e brigade. Donc ils se sont vraiment investis dans des recherches. Ils ont, il y a eu des lieux qui ont été recherchés les personnages, le contexte historique. Donc ça les a vraiment ouverts, en plus de travailler dans le domaine du français, ça les a vraiment ouverts à cette histoire-là, disons. Donc quand ils sont arrivés au musée de la Résistance, ils n'étaient pas du tout ignorants, au contraire, de cette histoire-là. Et la veille du jour, J, on va dire, Marc Lévy a téléphoné, il a dit à la bibliothécaire, il a dit, il a fait bibliothécaire responsable du centre de documentation, oui. Il a dit, écoutez, j'amène mon père.
Ah oui, voilà. Carrément.
Carrément, ouais. Et alors, il est venu à Toulouse avec son père, il est descendu de Paris. Bon, il venait dédicacer aussi, hein, Marc Lévy, mais il a fait venir son père. Hein, voilà. Ce qui fait que les jeunes se sont retrouvés face à Jeannot, et je ne vous dis pas l'émotion qu'il y a eu quand même.
Hein. Ça devait être un bon moment. Ouais.
Ah oui, c'est vraiment, j'y pense, c'est très, très, très émouvant. Et les jeunes, ils ont été vraiment très, très émus et très respectueux. Bon, à l'écoute, en fait, c'était vraiment formidable. Dans ce contexte du musée de la Résistance, c'était vraiment super.
Et donc, l'idée est venue à
voilà, et l'idée est venue, voilà, l'idée est partie de là, de ces quatre planches, moi. Et le jour où je suis allé au musée de la Résistance, je me suis dit, bon, ces quatre planches, je vais les offrir et je les ai offertes à Marc Lévy. Quoi. Je dis, voilà, quoi. Et lui, comme il avait beaucoup aimé, il avait aimé ces planches, il les avait reçues, on lui avait envoyé quand même, hein, à mail, quoi. Et il m'a proposé, il m'a dit, écoutez, est-ce que ça vous dirait, il m'a dit, j'ai vraiment aimé ce que vous avez fait, est-ce que ça vous dirait qu'on adapte le roman? J'ai dit, oui, j'ai dit, ça me passionnerait, mais bon, je venais de signer chez un autre éditeur, là, pour l'album précédent, là, qui était censé être sur 3, bon, je ne désespère pas.
Mais ah ben, vous voyez que vous aimiez voilà. Les séries.
Voilà, donc ça ne s'est pas fait. Non, moi, si je ne désespère pas, c'est que j'aurais aimé faire une suite pour clore le premier album, quoi.
D'accord.
Parce que beaucoup de gens, bon, qui ont acheté cet album, ils n'auront pas la suite forcément, donc vis-à-vis du lecteur,
c'est
ça me gêne. Voilà, si je faisais une série, ça serait pour terminer celle-là, si vous voulez. Mmh. Par respect pour les lecteurs, quoi, qui ont eu le tome 1, mais qui n'ont pas forcément le tome 2, voilà. Voilà, c'est dit. Donc, bon, ça, c'est pas des choix personnels. Oui, donc j'ai dit, c'est pas possible, parce que j'ai signé, et puis, voilà, c'est... Mais il a dit, écoutez, on verra, j'attendrai. Effectivement, il a attendu, et quand j'ai été libre, eh bien, c'est le projet renaît de ses cendres, voilà.
Voilà, et ce qui a donné... combien de temps de travail, là, sur cette BD?
Ben là, j'ai travaillé l'adaptation, bon, en gros, grosso modo, pratiquement 2 ans de travail, oui. Ouais.
Ah oui, quand même.
Voilà, oui. Oui, parce que j'ai fait l'adaptation, donc l'adaptation du roman, oui. Donc oui, parce qu'il y a quand même 156 pages, donc j'avoue que c'est un rythme que je me suis dit, ça va être peut-être un peu rude, mais ça te fera du bien.
Parce que c'était une nouvelle expérience.
C'était pas vraiment mon rythme, oui, parce que j'étais plutôt à une planche par semaine qu'à 3 planches, quoi. Donc j'ai réussi là vraiment, voilà, à avoir de la constance et être vraiment dans le... Voilà, mais c'est du travail. Bon, je pense que beaucoup de gens n'imaginent pas, mais ne serait-ce que par la recherche de documentation, bon, on perd beaucoup de temps. C'est pas du temps perdu, mais c'est vrai que s'il faut dessiner nos locomotives, bon, on va pas prendre n'importe quelle locomotive. Voilà. C'est pas un roman historique où vraiment le boulon et chaque boulon est à sa place forcément. Voilà, au niveau des décors ou les galons, j'ai essayé quand même d'être respectueux par rapport aux uniformes, bien que ce soit très très complexe, ça aussi on n'imagine pas.
Je me doute.
Dans l'armée allemande, les grades, les les différents costumes qu'il y avait. Bon, tout ça, c'est des choses dans lesquelles il faut se plonger. Et c'est vrai que ça prend du temps. Quoi. C'est pas que le dessin, voilà, qui prend du temps.
Donc, ce sont les recherches. On en parlera, je pense, au début de la dernière partie de l'émission. Ce projet, vous avez travaillé comment avec Marc Lévis ? C'est-à-dire que vous faisiez une planche, vous l'envoyez, ou vous faisiez plusieurs planches, c'était comment votre travail avec lui ?
Voilà, alors au tout début, j'ai travaillé un été là sur l'adaptation, disons, voilà, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, j'avais fait mes choix de scènes. Alors il y a des scènes que je vous ai dit j'ai supprimées, d'autres que je voulais supprimer mais que j'ai gardées quand même parce qu'elles étaient essentielles pour présenter un personnage que j'allais retrouver plus loin. Donc voilà, il y avait vraiment des choix à faire et pour arriver à garder la cohérence du récit. Donc j'ai fait chez Casterman, ils ont voulu un storyboard, voilà. Donc j'ai fait le storyboard, c'est-à-dire la bande dessinée à main levée, voilà. Donc je suis même resté assez près du storyboard, ce qui m'a assez conforté, que j'avais une vision assez précise de ce que je voulais faire, quoi, hein, parce que si on compare le storyboard, peut-être je mettrai quelques planches de storyboard sur mon Facebook. Mais voilà, j'ai procédé comme ça, j'ai fait ce storyboard et que j'ai soumis ensuite à la fois à Casterman et à Marc Lévy, voilà. Et donc je l'avais envoyé à Marc Lévy qui m'avait téléphoné, j'étais absent. Quand il avait téléphoné, il avait laissé un message répondeur où vraiment, il m'a dit, il était vraiment très très heureux déjà sur le storyboard de l'adaptation que j'avais faite, quoi. Donc, ensuite, bien sûr, je lui ai présenté. Alors, on a discuté, j'ai commencé à faire des premières planches, après on discutait s'il fallait modifier. Ça, c'est arrivé qu'on modifie sur des points de détail, vous voyez. Mais j'ai été assez fidèle, même au niveau des dialogues, et je pense, bon, j'ai dû épurer un peu parce qu'en bande dessinée, on est toujours plus concis, quoi, au niveau du texte.
Oui,
sinon, voilà. Si on arrive à faire passer par le dessin, moi, c'est mon truc, si on arrive à faire passer par le dessin, plus que par le texte, je pense qu'il faut plus passer par le dessin, quoi. C'est quand même la priorité. Après, il y a des informations qui ne peuvent être données que par le texte. Hein. Voilà, donc Marc Lévy, je lui soumettais les planches. On était d'accord sur le storyboard, mais il y a quand même des choses qui ont été modifiées après coup. Parce que le storyboard, c'est quand même un exercice de lecture du storyboard. C'est quand même assez délicat parce qu'on peut pas tout montrer. Comme moi, je montre pas mal par le visuel aussi. C'est pas dans des petits croquis qu'on va montrer forcément.
Oui, voilà. Je comprends.
Alors, voilà. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a les planches définitives, c'est toujours plus facile de critiquer, de dire tiens, ça, il vaudrait mieux peut-être mettre cette réplique ou telle autre, etc. Voilà. Alors c'est toujours un peu embêtant parce qu'il faut recommencer quelquefois, mais c'est arrivé assez rarement, quoi. Il m'a vraiment, 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 pour ça, je l'en remercierai jamais assez. Bon, il a vraiment eu confiance en moi, bon, parce que voilà, c'est lui qui m'a proposé à Casterman aussi, hein. C'était pas évident parce que bon, je suis pas forcément un auteur très 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 connu, hein. Donc c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, lui il a pris un pari sur moi, hein. Je remercie pour ça. Et puis il m'a vraiment laissé travailler très sereinement. Bon, il y a des scènes que j'ai repris parce que, par exemple, il y a une scène où le train est bombardé à un moment donné. Bon, il avait envie que j'insiste sur certains passages, donc j'ai dit oui, on peut. Alors je l'ai retravaillé, je l'avais dessiné, mais je l'ai refaite. Hein, et puis j'ai supprimé une petite scène qui était en post-face, finalement qui ne me paraissait pas forcément indispensable. Voilà. C'est une scène qui est dans le roman, hein, où on voit Marc Lévy avec son père de retour de Toulouse quand ils ont été médaillés et qui discute avec son père. Voilà. Et finalement, on l'a supprimé, cette scène. Hein, voilà. Parce que je pense qu'on a eu raison, parce qu'on reste comme ça, on reste vraiment sur les personnages à la fin du roman, et je pense que ça aurait été un peu détruire l'émotion finale, quoi, finalement. Voilà.
Alors, on va faire une avant-dernière page musicale. Hein, parce que le temps tourne, hein. Alors vous avez choisi dans votre programmation musicale Elle avec
c'est l'album initial, oui, voilà. avec Mes Lèvres,
voilà, Mes Lèvres, voilà. Sylvain Vanneau avec Il fait soleil, et Leonard Cohen, bien entendu, avec The Partisan.
parier de circonstances.
Hein. Oui, donc vous avez choisi ces titres par rapport au livre, cette fois-ci?
Non, vraiment, ça s'est trouvé, même ça, c'est comme je disais, pour le destin, il y a le destin des voyageurs aussi, j'avais choisi, mais non, c'est vraiment, c'est une chanson que j'aime énormément de Leonard Cohen. J'écoute assez peu Leonard Cohen, mais c'est une chanson qui me touche beaucoup, voilà. Donc, des fois, mais je dis, il y a des chanteurs, genre deux chansons qui m'emballent et pas forcément le reste. Mais là, vraiment, le Partisan, oui, ça me fait toujours vibrer. Après, bon, il y a Effet Soleil de Sylvain Vanneau, c'est une chanson, en réalité, c'est une chanson qui avait été chantée par Jean-Roger Cossimon, voilà, qui avait écrit, bon, qui était chanteur lui-même, bon, je pense que peut-être pas les tout jeunes connaissent, mais voilà, qui a écrit pas mal pour Léo Ferré, qui avait fait un album vraiment spécial sur ses chansons, voilà. Et donc, c'est une chanson qui évoque un petit peu ce remords qu'on a toujours en soi qui nous empêche d'être totalement heureux, même lorsqu'il fait soleil, quoi. Parce qu'il chante il fait soleil, mais quelque part, voilà, il se dit il y a des gens qui n'ont pas forcément le soleil que j'ai, quoi. Et ça peut empêcher, bon, il y a des gens qui sont mauvais, donc ils disent il suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. Mais bon, c'est pas mon cas, donc c'est une chanson qui me touche particulièrement, voilà. Après, bon, elle, c'est une... J'aime beaucoup, voilà, c'est une chanteuse française, voilà, de la nouvelle scène française, on va dire, voilà.
Eh bien, on va écouter donc cette belle programmation musicale et se retrouver tout de suite après dans la dernière partie de l'émission. À tout de suite.
D'arrière-gras, mes lèvres se sont desséchées. Je les avais brûlées pour toi, fardées de rouge et puis d'étoiles amassées, cachées sous mon voile à l'aube, en te croyant mon roi. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Bien sûr, tu m'avais prévenu, venant auprès de moi, que toi, tu ne te mettrais pas à nu, que tu venais par désarroi. Mais tes mains, tu me les tendais, tes mains trop grandes et tes doigts d'or, je les ai laissés me serrer, ils sont à la taille de mon corps. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Quand dans ta nuit tu m'as couché, c'est à ma bouche que tu pressais ta tête lourde et ta douleur. J'étais ton ange, ta douceur, veilleuse de nuit, j'ai posé mes doigts sur tes yeux enfoncés, car je les sentais exploser tes yeux au creux de ta pensée. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes d'ivresse, embrasées dans un tourbillon, carillonnant plein de promesses en confettis et cotillons. Ton ange dans ce tourbillon, rêvait quand ses lèvres ont pris feu, elle brûlait pour le réveillon, dans une brèche de tes yeux. Mes lèvres sont mortes à minuit, au premier son du carillon, dans les 12 coups m'ont réduit en une pluie de cotillons. Mes lèvres sont mortes à minuit. Mes lèvres sont mortes à minuit.
chanson, la prière, il y a loin. Cependant, chaque matin de lumière, je retrouve une âme d'enfant qui se recueille et s'émerveille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pourtant, ce journal que l'on m'apporte, je pourrais lire noir sur blanc les faits divers en lettres mortes. Tout ce flot de pleurs et de sang roule comme il roulait la veille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pour je bois, je mange, en prison pleure un innocent. Sur la rive asséchée du Gange, un enfant s'endort doucement. Sous l'œil sec du vautour qui veille, je suis heureux, il fait soleil. Seul pays, c'est le monde, on y oublie de temps en temps qu'ici et là le canon gronde, mais qui veut l'écouter l'entend. Il suffit de prêter l'oreille. Je suis heureux, il fait soleil. Et pourtant, pour l'abîme, il apparaît ce temps de misère et de mort, où nos joies de honte se payent, que je chante sans remords, simplement comme fait l'abeille. Pour tout le monde, il fait soleil.
Some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché. Les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
De retour dans le Café des Amis sur la TAF 95.4 avec Alain Grand pour Les Enfants de la Liberté chez Casterman. Magnifique livre, je le rappelle encore. Magnifique dessin, magnifique coloriage et très respectueux du roman de Marc Lévy. Donc Alain Grand, est-ce que vous aimeriez replonger dans un projet similaire ?
Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Je n'ai eu que du plaisir à... Bon, donc, je n'aurais aucune réticence à reprolonger un travail comme ça, même si c'est très, très prenant. Et c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'on met sa vie entre parenthèses, mais bon...
Presque.
C'est quand il y a énormément de... Voilà. Bon, j'ai un dessin qui ne se prête pas forcément à faire cinq planches par jour, quoi. C'est... Voilà. C'est pas un rythme de mangaka, donc
oui, oui,
forcément le temps, il faut le prendre là où il est, c'est-à-dire sur le repos souvent. Ouais, voilà. Mais bon, c'est toujours de bonne grâce parce que c'est bon. Si je ferais pas ça, sinon c'est le plaisir qu'on pense, on va dire. Voilà.
Est-ce qu'il y aura un autre projet avec Marc Lévy ?
Oh, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Non. Forcément, bon, je sais pas si un jour il me proposait, moi je dis pas non, mais non, rien n'est prévu. Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait, qui est venu, voilà. Hein,
avec qui vous aimeriez collaborer ?
Au niveau scénaristique,
scénaristique oui, ou oui. Dans ce type de projet ?
Oui, ben j'aimerais scénariser, je vous dis.
Ah oui?
J'aimerais scénariser, je trouve que c'est... Oui, voilà, je suis... Voilà, mon premier album, je l'avais scénarisé d'ailleurs, mon tout premier album là, dont je vous ai parlé, là, qui avait été retenu pour Angoulême. Mais bon, j'ai toujours un peu des envies de scénariser. Alors j'ai travaillé avec très grand plaisir avec Gérard Moncombe, là, qui est un auteur jeunesse. Il m'avait même proposé un autre projet, mais bon, que j'ai décliné parce que j'ai vraiment envie de partir plus sur des histoires... Il est plus... dans des histoires pour enfants, adolescents. Bon, ça, je pense que j'ai un petit peu tourné la page de ce genre de bande dessinée. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de plus adulte, entre guillemets, et en one shot. Voilà, pour moi, le prochain bouquin idéal, ça serait ça. Voilà. Alors, avec Dominique Ozouche, si je fais la couleur, bien entendu, je pense que ça s'imposera. Bon, après, il y a des critères de coût, de prix de revient pour l'éditeur. Voilà. Certains qu'une BD couleur, ça revient plus cher au niveau de l'édition. Donc, c'est souvent, on trouve dans les one-shot beaucoup de bouquins noir et blanc à cause de ça. Voilà. Mais là, bon, j'espère, si je peux refaire un one-shot de 150 ou 200 pages, ça ne me fait pas peur. Voilà. On repartira pour un an et demi, deux ans de travail.
Et un auteur en particulier, pas un auteur, c'est qui vous plairait d'adapter ?
Un auteur, j'ai pas d'auteur très précisément, non. Je serais plus attaché à des atmosphères, des ambiances. Donc j'aime beaucoup l'histoire aussi, donc non, j'ai pas de vue d'adaptation pour l'instant, très particulière. Un auteur avec qui j'aurais aimé collaborer, j'adore Fabien Vellman comme scénariste, voilà, c'est dit. Mais c'est vrai que travailler seul et scénariser, je trouve que c'est une liberté qui est extraordinaire, quoi, parce que ça permet de vraiment de penser pour ça que là, j'ai beaucoup aimé faire l'adaptation, parce qu'on est vraiment libre de traduire à l'image ce qu'on ressent. Quoi. Voilà. Quand on travaille avec un scénariste, c'est beaucoup plus directif comme travail. Hein. C'est-à-dire que le scénariste, il va dire, bon, il y a tant de cases dans la page, case 1, il se passe ça, il se passe ça, case 2, ça, il vous met les dialogues, etc. Et il vous met, quelquefois, il y a des scénaristes qui ont vraiment une vision de ce qu'ils veulent, ils vont dire plan d'ensemble, plan général, gros plan, voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez... qui est plus contraignant, disons, que si on utilise soi-même le visuel, quoi. Et c'est vrai que quand on est dessinateur, je pense que ça peut être même plus puissant que d'être au service d'un scénariste. Enfin, moi, c'est mon point de vue maintenant. Il y a des chefs-d'œuvre qui ont été faits, qu'on ne citera pas, on parlait de Goscinny en aparté, là, mais...
Voilà. Oui, c'est vrai.
Je pense qu'il y a des duos, après, qui sont magiques, quoi. Mais c'est pas toujours le cas, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même... Voilà, j'aurais quand même cette envie de scénariser, voire d'adapter. Donc,
vous avez pas...
J'ai pas de roman précis, là.
Vous avez pas encore trouvé votre binôme?
Voilà. Non, je sais pas, peut-être parce que je le cherche pas assez, donc je sais pas. Je sais pas. Bon, j'ai travaillé, ceci dit, avec Régis Sautière, j'ai pris grand plaisir, mais bon, c'était... Pour moi, c'était un petit peu plus difficile que de scénariser seul, parce que... Bon, souvent, les scénaristes ont plusieurs séries en parallèle, hein, si vous voulez. Mmh. Donc, il faut apprendre à travailler avec quelqu'un qui va vous livrer que 5 pages par-ci, 5 pages par-là. Moi, c'est vrai que bon, ce que font la plupart des scénaristes, hein, c'est pas une critique de Régis Sautière. Hein,
mais j'ai bien compris.
Ils peuvent pas se consacrer pendant un mois ou deux mois uniquement sur un scénario, et puis après repartir sur un autre, quoi. Hein. Ils sont obligés d'avoir plusieurs dessinateurs. Hein. Autant un dessinateur peut n'avoir qu'un scénariste et puis se mettre à travailler un an sur un album, autant un scénariste, s'il veut vivre de son métier, il faut qu'il ait au moins 3 dessinateurs, voire 4, pour le servir, entre guillemets, quoi. Voilà. Et c'est vrai que... L'avantage de faire soi-même ou d'adapter, on a une vision, je trouve qu'on a une vision d'ensemble, qui me convient mieux, voilà. Mmh. J'aime dominer dominer le sujet, voilà. Ce qui peut permettre après, bon, et ce qui peut éviter de, comment dirais-je, on peut avoir une page et puis on peut se retrouver 20 pages plus loin, on se dit, mince, à telle page en amont, là, si j'avais su, j'aurais plutôt fait ça, quoi. Voilà, quand on n'a pas une vue générale, voilà. Et là, c'est vrai que le fait de faire un storyboard, ça permet de cadrer, de serrer tous les boulons dès le départ, quoi.
Ouais, je comprends bien.
Ça roule tout seul, mais je pense qu'une bonne partie du travail après est fait, on est beaucoup plus serein, et puis on peut savoir qu'à tel endroit, on va retrouver tel personnage, donc il faut le préparer. Voilà, c'est... Voilà, c'est autre chose, c'est vraiment autre chose de travailler seul avec un scénariste.
Est-ce que vous travaillez sur un projet actuellement?
J'ai des idées, voilà, de... Bon, je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas superstitieux, mais bon, voilà, tant que c'est pas...
On n'aura pas le scoop.
Voilà, c'est rien de très très concret, mais c'est plus sur des époques, quoi, voilà, que j'ai envie de mettre...
L'histoire.
Mais je ne m'arrêterai pas de vous en parler, ça se concrétisera.
Vous avez intérêt de
nous prévenir. Mis dans la confidence.
Ah, j'espère bien, voilà. Parce que j'avoue franchement que je ne connaissais pas ce que vous faisiez. Hein, et j'ai découvert un très beau dessin et de très belles choses avec ces enfants de la liberté. Votre adaptation est vraiment tout simplement magnifique. Je le dis, donc moi j'ai hâte parce que j'ai l'exemplaire presse, on va dire, et j'ai hâte d'avoir la version. On va dire grand format,
voilà.
Grand format, parce que vous m'avez mis voilà. La bave aux lèvres.
Voilà, c'est un peu plus grand, c'est pas le format 4, bon, voilà. Classique, mais c'est un tout tout petit peu plus petit que l'A4, mais c'est beaucoup mieux que l'exemplaire de presse, vous voyez, qui est là essentiellement pour... Bon, l'histoire était complète, donc vous avez pu apprécier.
Tout à fait.
Voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau qualité d'impression, respect du graphisme, c'est voilà. Il y a un petit plus. Voilà, c'est le petit plus comme les biscuits. Hein.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai passé vraiment un agréable moment quand je l'ai ouvert. Je ne l'ai plus quitté. J'avoue, je ne l'ai plus quitté.
C'est un compliment pour moi, vous voyez.
J'ai même pris du retard avec ce que j'ai. Grâce à vous, j'ai pris du retard.
Je m'en réjouis. Je ne sais pas les conséquences pour vous, mais je m'en réjouis.
Oui, j'ai pris du retard parce que figurez-vous que j'ai tellement apprécié, je l'ai reçu tard, si vous voulez. Donc je l'ai lu rapidement et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc je l'ai recommencé en le lisant correctement. Donc c'est pour ça que j'ai pris du retard par rapport à un autre livre.
Ah, oui.
Mais c'est pas bien méchant. Bon. C'est pas bien méchant.
Il faut en relire l'autre livre alors. Voilà.
Ah tout à fait. En plus,
vous êtes rentré dans un cercle.
Un cercle vide. Mais méfiez-vous, ça m'arrive fréquemment donc.
Oui.
Ça m'arrive très très fréquemment. Donc malheureusement cette émission tire à sa fin. Hein. Mais on la mange sans fin, comme on dit.
Oui. Oui.
On va l'écouter sans fin aussi. C'est vraiment le roman était déjà particulièrement poignant, particulièrement.
L'échelle humaine. C'est vraiment l'échelle humaine.
L'échelle humaine. Voilà. Et vous l'avez vraiment très très bien retranscrit, à mon humble avis. Bon, la dernière question que je vais vous poser, c'est que bon, on a parlé de Marc Lévy, que lui il avait adoré et qu'il y avait eu une très bonne symbiose entre vous deux. Mais par contre, son père, qu'est-ce qu'il a pensé de la version bande dessinée ?
Eh bien, figurez-vous que je n'ai aucun retour. Alors,
c'est la question piège.
Voilà, c'est la question piège. Je ne me suis pas hasardé à demander, mais bon, je suis vraiment très heureux qu'il puisse l'avoir entre les mains. Maintenant, bon, je ne sais pas. Je sais, c'est quand même quelqu'un qui a édité des livres d'art, et donc je pense que, comme c'est un livre d'art, il sera apprécié. Bon, non, je plaisante, mais c'est vrai que, bon, ça doit être émouvant pour lui. Maintenant, c'est toujours une vision, donc moi, c'est toujours un peu, j'ai toujours un peu cette crainte, ça me fait vraiment plaisir. C'est un homme qui est bon, que j'ai rencontré donc sur Toulouse au musée de la Résistance. C'est un homme qui est d'une modestie, mais je vais pas dire maladive, mais il est très très modeste par rapport à ce qu'il a fait. Voilà, et je pense qu'il a quand même la fierté de ce qu'il a fait, hein, mais il a jamais voulu. Il a été même réticent. Bon, le problème avec le roman Marc Lévy, il voulait pas que ce soit qu'il soit mis en avant. Voilà. Pour lui, ce qui est important, c'était ses camarades, la 35e brigade et tout ça. Donc, j'ai pas fait un livre, moi, sur le père et l'oncle de Marc Lévy, quoi, bien qu'ils soient un peu les fils conducteurs, quoi. Hein. Je pense que c'est un livre sur ces jeunes combattants, la 35e brigade, quoi. Et je crois que c'est ça qui peut le toucher, quoi. Le présenter un héros de bande dessinée, je pense que c'est pas ça qui va l'enthousiasmer forcément, le connaissant. Mais le fait qu'on parle à la 35e brigade, que des jeunes puissent le lire, que des jeunes puissent ouvrir une porte, vous voyez, en fin d'album, il va y avoir, il y a une documentation, des extraits de documents qu'il a fourni, hein. Il y a des rapports de police, il y a vraiment de quoi entrer dans l'histoire et il y a accès à un site internet, donc ça peut vraiment être une porte pour des jeunes qui auront aimé l'histoire justement de découvrir ça, si vous voulez, sur internet, et vraiment l'histoire très précise, bon, qui est très complexe, hein, mais bon, c'est vrai qu'en bande dessinée on est obligé de simplifier, mais il n'y a rien de faux, il y a des anecdotes qui paraissent complètement folles, qui sont réelles, quoi. Mais voilà, bon, la bande dessinée donne un petit côté, non, c'est pas possible, mais si, quoi, c'est que la fiction, la réalité dépasse la fiction, quoi, en l'occurrence, hein, voilà.
Oui, alors dans ce cas-là, je trouve que vous avez vraiment mis le doigt dessus également, et je pense que il doit être content de ce que de votre travail et aussi bien sûr de du travail de son fils, mais ça il lui a déjà dit.
Oui, je pense que je le rencontrerai à nouveau. Et bon, c'est vrai que je vais pas souvent sur Paris, mais je pense que j'aurai l'occasion, on aura l'occasion de se rencontrer. Je pense qu'il me dira de vive voix ce qu'il en pense, mais bon, je veux pas parler pour lui, donc.
Tout à fait. Oui,
et puis je n'ai pas voulu poser la question à Marc Lévy. Je pense que voilà, il y a des choses. Bon, il y a une forme, on a une forme de pudeur entre nous. Bon, voilà, je veux pas lui mettre la pression là-dessus, vraiment pas.
Alors le dernier mot sera pour vous. Enfin, après, il y aura votre programmation musicale. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs?
J'ai fait tout ça, ce travail avec tout mon cœur. Bon, j'espère qu'ils passeront un bon moment, mais au-delà du bon moment qu'ils passeront à la lecture, voilà, ça les éveillera à la curiosité, qu'ils auront la curiosité d'aller plus loin pour connaître ces personnages, hein, dont on peut trouver. J'ai essayé d'être fidèle au niveau des portraits, tous ceux dont j'ai pu trouver des portraits, je les ai portraiturés. Bon, j'espère qu'ils auront ce plaisir-là. Et puis, bon, si des jeunes le lisent, bon, voilà, comme il est dit un petit peu dans l'introduction de l'édition définitive, là, voilà, il y a toujours des combats, des résistances à mener, quoi. Hein. C'était un peu le message de Raymond Lévy dit Janon au musée de résistance aux jeunes, quoi. C'est que il faut pas s'imaginer que c'est une période qui est qu'on va mettre sous un bocal. Il faut savoir, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit résister, quoi. Et puis il faut savoir les dénicher, parce que des fois c'est très sournois, quoi. Hein. On peut très bien se faire dominer de manière très sournoise maintenant à nos époques. Donc il faut toujours garder cet esprit de résistance. Pas que d'indignation, comme dirait Stéphane Hessel. Bon, indignez-vous, c'est bien, mais je pense qu'il faut résister aussi quelque part. Bon, et ça demande un courage qui est peut-être pas à la hauteur du courage qu'ils ont eu à ces époques-là, mais ça demande quand même un certain courage, quoi. Quelquefois, il faut savoir sortir du
lot.
Du chemin qu'on essaie de tracer pour vous. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est ça.
Eh bien, écoutez, Alain Grange, ça a été un agréable moment, une très bonne rencontre aujourd'hui.
Très agréable.
Et je vous souhaite plein de succès. Hein, c'est sûr. Et je vais me procurer vos autres livres que je ne connais pas, comme je vous ai dit. Donc, vous voyez qu'un livre peut en appeler à faire découvrir le reste de votre œuvre.
Voilà, ben merci.
Alors, on va finir par... alors, c'est une particularité de ce titre, Everybody's Talking, de Harry Nilsson, qui a été la bande originale de deux films, de Forrest Gump, en dernier, mais également de Macadam Cowboy.
Tout à fait.
Et donc, on va écouter Babix avec donc le titre extrait de Drone Personnel.
Voilà, Naomi M, oui, c'est un des titres qu'on entend le plus, mais bon, c'est un titre qui est très sympa. Bon, voilà, je l'ai mis, bon, il faut gâter les auditeurs.
Voilà, c'est ça. Et on finira par Arthur H avec son père, Jacques Higelin, avec Le destin du voyageur.
Le destin du voyageur, qui est une chanson, bon, le père qui, le fils, et le père qui se voit pas suffisamment, mais qui se parle, et bon, c'est assez, je trouve que c'est très émouvant, et puis bon, a posteriori, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un petit peu aussi le... un lien, Marc Lévy avec son père, voilà, je ne sais pas, c'est toujours des liens père-fils qui sont toujours très subtils, très particuliers dans toutes les familles, mais bon, en l'occurrence, là, je trouve très émouvant ce duo de Jacques Higelin avec Arthur H, voilà, c'est son fils.
Eh bien, on finira là-dessus. Je pense qu'on doit vous trouver dans toutes les bons salons du livre ou salons de la bande dessinée. Je pense que vous serez à Angoulême l'année prochaine.
Je suppose, je ne sais pas trop. Je ne creuse pas mon plan.
Voilà, mais qu'on vous verra lors de dédicaces à Limoges aussi, ça je l'espère. Et vous nous contacterez, j'espère, pour parler de vive voix et de vous rencontrer.
J'espère aller au salon de Saint-Bosire où j'ai quelques amis là, donc je ne sais pas si... On verra. Je ne sais pas s'il y a un salon sur Limoges.
Si, si, hein, le salon du livre.
Voilà, le salon du livre, mais de BD, pas
partout. Non, il n'y en a pas.
Le salon du livre.
Oui.
Mais c'est un livre, il faut le dire. Hein. Voilà.
Donc, tout à fait.
Alors, peut-être un salon du livre à Limoges, alors allez, on aura peut-être le plaisir de se rencontrer.
Ah, ça sera avec grand plaisir.
Voilà, et moi aussi.
Eh bien, merci beaucoup. Et je dis à nos auditeurs à la semaine prochaine pour une nouvelle surprise. Au revoir.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Sierra Leone. Naomi aime les diamants comme n'a jamais aimé personne. Roulant au creux de son corsage, caracolé au bas du dos, comme un éclair, un tatouage sur le basalte de sa peau. Naomi aime les pays chauds, comme quand elle était petite, et qu'elle en rêvait aux joyaux, des carrières de Kimberlite, déesse des astres et des pierres, princesse peu ou Navarro, victorieuse et solitaire, belle comme un beau guerrier. des diamants. Naomi aime les dictateurs qui lui offrent le firmament. Des forages sous la lune, quand la lune est un diadème. Oui, les forages sous la lune. Naomi aime, Naomi aime.
Le voyage est court, vers le